Mon nom, c'est Luc Tétrault. Nous demeurons maintenant à Guelph, en Ontario, au Bureau national du Fellowship. En 2015, j'ai été invité de me joindre au groupe pendant que j'étais au Pakistan comme directeur général du Shikarpur Christian Hospital, une des œuvres que notre Fellowship a soutient depuis des années. On m'a demandé de me joindre au bureau comme adjoint au directeur général du Fellowship à l'étranger. Puis, ma tâche primaire, c'est de prendre soin de nos missionnaires qui sont éparpillés à travers le monde. Donc, c'est moi qui s'occupe de leurs finances, c'est moi qui s'occupe de leurs enfants lorsqu'ils sont en voyage. Souvent, ils se ramassent chez nous quand ils sont de passage. C'est moi qui ai le privilège de visiter lorsque les choses vont mal. Puis c'est pour ça que je disais que oui, c'est une joie de le faire, d'accompagner quelqu'un qui est dans le trouble, que son désir, c'est de mieux faire son travail pour le Seigneur. Il n'y a rien de mieux que ça. Puis c'est ça que j'ai le privilège de faire. Demain matin à 2 heures, je quitte la maison pour me rendre au Honduras pour venir prêter main forte à nos amis qui travaillent au Honduras. Donc, priez pour moi. Je suis un peu fatigué. J'ai été pas mal debout toute la nuit à préparer ça. Je l'ai pris hier après-midi que je devais partir. Donc, le danger, c'est moins que vous tombez endormi, mais le danger, c'est moins que moi, je tombe endormi ce matin. On va essayer de faire ça encore. Donc, j'ai vraiment apprécié le témoignage de Dominique, parce que le travail qu'il fait comme c'est de s'occuper de la santé de l'Église, mais j'ai été bénéficiaire de ça dans l'Église du Bon Berger à Orléans. Dans le temps, c'était M. Habib qui était là et Marcel Côte-Noir. Mais de venir à côté de quelqu'un lorsque ça va mal, puis qu'il y a des bons résultats, il n'y a rien de plus encourageant que ça. Donc, je te souhaite beaucoup plus de moments encourageants que de quand on nous appelle trop tard. Donc, OK, vous me connaissez, Esther? All right, on va commencer. Donc, Johnny m'a appelé, ça fait peut-être 6 mois, pour m'inviter à venir ce matin. Puis moi, je dis toujours oui quand les gens veulent m'inviter dans leur église. Après ça, il m'a dit que c'était une conférence missionnaire, puis il voulait que je fasse une petite conférence que j'ai faite tantôt, puis là, de prêcher aussi. Puis là, OK. ensuite, il m'a donné le passage, et puis vous voyez le passage. C'est le thème, en cas que vous ne sachiez pas, c'est le thème de votre conférence. Élargis l'espace de ta tente. Qu'on déploie les couvertures de ta demeure, ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. Moi, j'étais un campeur. Moi, j'ai passé bien du temps dans des tentes. J'ai travaillé pas pour l'armée, mais avec l'armée. Fait que j'ai passé du temps dans des tentes d'armée. On aime beaucoup faire du camping. Se faire inonder parce qu'on a placé notre tente dans un trou trop creux, ça, on l'a tout fait. Se faire manger par des bobites qui rentrent dans la tente. Manquer de se faire passer sur le dos par un ornial parce qu'on s'est installé dans leur piste. Ça, c'est des choses de même. Avoir des tempêtes de neige à l'intérieur de votre tente. En tout cas, c'est pas pour ça que je suis venu parler de ça. Fait que j'ai commencé. J'étais pas utilisé toutes sortes d'illustrations, mais je me suis dit, regarde, peut-être qu'on devrait juste aller voir ce que le texte dit. C'est toujours une bonne place pour commencer. Donc, je sais pas si vous êtes comme moi. Quand je lis les Écritures, souvent, tu lis une journée, puis tu oublies que tu as lu le jour avant. Mais merci, Johnny, parce que ça m'a donné l'occasion de revoir des passages, de mes passages préférés, tout ensemble. Je ne réalisais pas qu'ils étaient ensemble. Puis on va en parler un peu. Donc, élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure, retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. Donc, la prochaine, s'il te plaît, c'est-tu moi qui ai le contrôle? Donc, pour se mettre dans le contexte, je vais vous expliquer la situation. Ça s'adresse au peuple d'Israël. Je vais vous expliquer. Oh, merci beaucoup. Je vais vous expliquer la situation. Je vais vous expliquer l'espérance qu'ils avaient, le moyen de salut que Dieu leur a fourni, une promesse et puis le résultat. Donc, la situation. Donc, pour les historiens bibliques, vous savez que à l'époque que Isaïe était écrit, Israël a passé 70 ans en captivité en Babylone. Et puis, cela, c'était clairement une punition de Dieu, une conséquence de leur idolâtrie. Ils se sont éloignés de Dieu. Puis pour que Dieu puisse saisir leur attention, il les envoyait en captivité pendant 70 ans. L'espérance. Hein? Dans le creux du trou, après plusieurs années de captivité, Dieu, par Ésaïe, il leur annonce ceci. C'est petit, je vais le lire. C'est dans Ésaïe 52, 1 à 7. Ça dit, « Réveille-toi. » Ça, c'est pour moi. « Réveille-toi. Revêt ta parure, Sion. Revêt tes habits de fête, Jérusalem, ville sainte. Car il n'entrera plus chez toi, ni incirconcis, ni impur. Secoue ta poussière, lève-toi, mets-toi sur ton séant, sur tes hauts lieux, Jérusalem. Détache les liens de ton cou captive, fille de Sion. Car ainsi parle l'Éternel, c'est gratuitement que vous avez été vendus, et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Jadis, mon peuple descendit en Égypte pour y séjourner, mais l'Assyrien l'opprima sans cause. Et maintenant, qu'ai-je à faire, dit l'Éternel, quand mon peuple a été gratuitement enlevé? Et ses tyrans poussent des cris, dit l'Éternel, et toute la durée du jour de mon nom, toute la durée du jour, mon nom est outragé. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi il saura en ce jour que c'est moi qui parle. Me voici. Qu'ils sont beaux sur les montagnes les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie ta paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Ton Dieu règne. On va se courber un instant. Fait qu'on a parlé de l'espérance. Il dit, je suis là pour vous. Il leur donne le moyen de salut. Ceux qui aiment l'opéra, l'opéra qu'on chante à Noël, là. Le Messie d'Handel. Quand j'étais tout petit, je chantais ces paroles-là, mais je ne savais pas qu'est-ce que je chantais. Le moyen de salut. C'est dit, méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, celles de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Au verset 11, à cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. Dieu a fourni Jésus-Christ. C'est écrit avant que Jésus-Christ arrive, c'est une prophétie. Mais clairement, on parle de Jésus-Christ, du sacrifice que Christ a fait sur la croix pour sauver le pécheur. Donc, on est tous impliqués. La promesse. Ésaïe 54. Régis-toi, réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations et pleurera, excuse-moi, et peuplera des villes désertes. Vous trouvez votre thème là-dedans? Élargis ta tente. Pourquoi? Parce que vous allez avoir besoin de la place. Puis qui est-ce qui va venir? Les nations. Éclatez ensemble en cris de joie, ruines de Jérusalem. Car l'Éternel console son peuple et le rachète Jérusalem. L'Éternel découvre le bras de sa sainteté aux yeux de toutes les nations. Et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. Toutes les extrémités de la terre. Donc, le résultat, on a besoin d'une plus grande tente. On a besoin d'une plus grande tente. Je suis vraiment, c'est vraiment un privilège d'être ici avec, avec d'autres missionnaires, d'autres organismes missionnaires. Je ne sais pas si vous, déjà, si vous avez vécu dans les églises de, au Canada, il y a souvent il y a des compétitions entre les églises. Hein. On n'en parle pas beaucoup, mais il y a de la compétition. C'est vrai ça, Gabriel? Mais ce que j'ai vu, moi, au Pakistan, comme missionnaire, c'est que la collaboration est incroyable. J'ai lu, j'oublie qui ce qu'il a écrit, mais... La tâche, il a écrit, la tâche est trop grande pour que, qu'on tente d'essayer de le faire seul. Je faisais partie d'un organisme au Pakistan, une organisation missionnaire pakistanaise, où est-ce qu'on avait sept différents organismes missionnaires représentés, 8 nationalités, y inclut 2 familles éthiopiennes qui travaillaient avec nous. Donc, si on regarde dans les dernières années, depuis 1900, le progrès de l'Évangile, c'est vraiment époustouflant. Si on regarde en Amérique du Sud, en 1900, il y avait à peu près 1% de la population qui était croyant, qui suivait le Seigneur Jésus. Donc, environ 700 000 personnes. Aujourd'hui, c'est 55 millions de personnes, donc 11% de la population en Amérique du Sud. En Afrique du Sud, sous le Sahara, excuse-moi, Afrique au sud du Sahara, en 1900, il y avait 1,6 million de croyants, puis aujourd'hui, on estime 116 millions de croyants en Afrique. La Corée du Sud, si vous êtes missionnaire, si vous avez été sur le terrain, vous avez rencontré des Coréens. Ils sont partout. Partout, partout. Et le pourquoi? C'est qu'ils ont prié, eux, que par l'an 2000, qu'ils puissent envoyer 100 000 missionnaires. Puis ils ont réussi. 100 000 missionnaires. Ils prient maintenant, aujourd'hui, ils prient pour envoyer, par l'an 2020, qui est pas loin, dans 3 ans, d'être capable d'envoyer 1 million de missionnaires de la Corée du Sud. Ça représente 10% des croyants en Afrique, en Corée du Sud.
Wow!
Mais, en tout cas, 10% des chrétiens vont partir en mission. J'ai assisté à une conférence à Dallas, une conférence de Missionex, c'est un rassemblement d'organismes missionnaires. Et ils nous ont rapporté là-bas qu'en 1900, il y avait peut-être 250 missionnaires qui ne venaient pas de l'Occident. Donc, il y avait beaucoup de missionnaires du Canada, des États-Unis, de l'Angleterre, de l'Australie, tout ça. Mais de ceux qui ne venaient pas de ces régions-là, il n'y en avait seulement que 250. Aujourd'hui, on estime 180 000 missionnaires qui viennent de ces pays que non occidentaux. J'ai assisté à une conférence en Turquie. Il y avait 600 missionnaires dans la pièce. 300 venaient du Canada, des États-Unis, de l'Angleterre, puis tout ça. Le reste venait de tout partout. Aujourd'hui, les missions, c'est plus le nord vers le sud ou le nord vers l'est ou l'ouest. Excuse-moi, l'ouest vers l'est. C'est des gens de partout qui vont partout. C'est incroyable. Le pasteur qui a prêché à cette conférence-là vient du Kenya. Puis, il y a tout un réseau d'églises pour lesquelles qu'il dirige. Puis, il prie, lui, de son réseau d'églises d'envoyer 2500 missionnaires, des Africains, partout dans le monde. Il dit, on est déjà là. Puis les gens ne nous voient pas. On s'infiltre partout. Et on a des Africains partout. Fait qu'est-ce qu'on fait? On les forme pendant 7 ans avant qu'ils partent. Puis là, on leur demande de nous donner 7 ans de service outre-mer. Et puis, en tout cas, je crois qu'ils vont y arriver. Mais la réalité de notre monde, c'est qu'il y a eu plein d'efforts. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts. Beaucoup d'argent a été dépensé. Mais la réalité encore aujourd'hui est celle-ci. 42% des gens sur la terre n'ont jamais entendu l'Évangile. 2,17 milliards de personnes ne connaissent personne qui connaît Jésus. Puis c'est encore pire si tu es hindou, musulman ou bouddhiste. Il y a 81% des hindous, musulmans ou bouddhistes ne connaissent aucun chrétien. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi la mission? Je pense que vous pourriez le réciter par cœur. Notre mission? Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins où? Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarité et Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous serez mes témoins. Les dernières paroles que Jésus a dit sur terre avant qu'il quitte. Il a dit aussi dans Matthieu 28, 19 et 20, allez, faites de toutes les nations des disciples. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il faut que je me retrouve dans mes notes. Donc, cette mission-là s'adresse à qui? Aux missionnaires? Aux missionnaires? Non. Pas tous. Aux pasteurs? Oui, mais pas juste les pasteurs. Ça s'adresse à tous. À tous. Quelle sorte de personne que Jésus avait avec lui dans son ministère? C'est qui ses disciples? C'était tous des gars avec des bacs de Saint-Bec, je suis certain. C'était tous des gars qui avaient étudié au séminaire de Master Seminary en Californie avec John MacArthur. Toute la gang. Hein? Non. La majorité, c'était des pêcheurs. Hein? Puis je vais te dire, j'aurais pas voulu partager une tente avec eux autres après une journée de travail. Pas pantoute. Il y en avait un autre que c'était un collecteur de taxes. C'était un traître, puis un pas bon. Les gens, ils l'haïssaient. Puis, l'autre, c'était qui? Un zélote. Simon, le zélote. C'est un anarchiste. C'est le genre de gars qui brise des fenêtres après que les Canadiens ont perdu un match. C'est pas gentil de dire ça. Je suis un partisan des Sénateurs. Donc, ça s'adresse à tous. C'est qui l'exemple parfait de quelqu'un qui va rejoindre les gens qui sont poqués un peu? C'est ça. La Samaritaine. Jésus, quand il est allé la voir, la Samaritaine, sur le bord du puits, il a brisé à peu près tous les tabous possibles dans le temps pour un homme d'Israël, un juif. Donc, premièrement, il a parlé à une femme, que tu ne faisais pas, moins que ce soit ta femme, puis tu sois à l'intérieur de chez vous. Il a parlé à une femme. Il lui a demandé un service. Il a parlé à une femme samaritaine. Fait que les Juifs haïssaient les Samaritains. C'était des pas bons, puis toutes sortes d'autres affaires. Puis en plus, c'était une femme pécheresse. Que c'était évident qu'elle menait une mauvaise vie. Elle couraillait, elle a eu plusieurs maris, puis en tout cas, toutes sortes de relations. Puis Jésus a pris le temps, s'est arrêté, puis s'est assis avec elle, puis il lui a pardonné ses péchés. Il a parlé à cette personne-là. Donc, Jésus, lui, est prêt à passer du temps avec des gens que, tu sais, qui étaient moins connectés avec. Mais Jésus était parfaitement connecté avec tout le monde, mais on reçoit l'exemple parfait que Jésus, lui, il s'arrêtait pas aux apparences. Hein? Il allait. Il passait du temps avec les pêcheurs qui sentaient le poisson, puis tout ça. Est-ce que nous, on est prêts à faire la place dans notre temps pour des gens qui pensent différemment de nous, qui vivent des vies différentes des nôtres? Pour ceux qui étaient en bas dans ma session, ça c'est une photo prise au Pakistan. En 2010, il y a eu des inondations incroyables. L'eau a couvert 20 % de la surface du pays, puis il y a eu 20 millions de personnes déplacées. On m'a demandé d'aller donner un coup de main pour coordonner les efforts d'aide humanitaire. Puis, on se promenait d'une place à l'autre, on rencontrait des gens, on leur demandait c'était quoi leurs besoins, on essayait de leur donner un coup de main. Et puis, dans le but de bâtir des relations. Donc, cet homme... Non, ça ne marchera pas, ça. Ce bonhomme-là, celui dans le milieu, son nom, c'est Jaro. Jaro, c'est le... Il était un des jardiniers à l'hôpital. Pas capable de lire, pas capable d'écrire. Mais un homme avec une foi dans le Seigneur Jésus incroyable. Il se nourrissait de toutes sortes de façons pour être capable de mieux connaître le Seigneur Jésus. Donc, nous, on l'a embauché parce qu'il avait des bons bras et le dos fort pour charrier des poches de 50 livres de nourriture. Mais Jaro, c'est aussi un prédicateur. C'est aussi un pasteur, c'est aussi un évangéliste. Fait que depuis 2010, Jaro continue à rejoindre, à aller visiter ces gens-là, à leur apporter la bonne nouvelle, puis à prendre soin d'eux. On est allé visiter Denise et moi au mois de mars, puis Jaro est venu me voir. Puis de ces plusieurs villages-là dans le coin, il y a 5 familles qui sont prêtes maintenant à être baptisé. Mais, quand il est venu le temps de les amener dans l'église locale, les gens y en ont eu peur. Parce que ces gens-là, c'est des musulmans. Eux, sont chrétiens historiques, si vous voulez. Il y a des vrais chrétiens aussi. Mais ils en avaient peur, puis ils ne voulaient rien savoir des avoirs dans l'Église. Ils ont mis l'or. Ils n'ont pas voulu même tenter de les recevoir dans l'Église, parce qu'ils étaient différents d'eux. Donc, Jésus a fait ça avec la Samaritaine. Il l'a reçue, il a pris soin d'elle, il l'a conseillée, il l'a encouragée. Il l'a pardonné, puis il l'a renvoyé pour aller parler à son monde. C'est qui nos Samaritains? C'est qui nos Samaritains à nous? J'ai fait un peu de recherche avant de venir. Puis aussi, Johnny m'a mis la puce à l'oreille. c'est surtout ça, pour être honnête. Mais les résultats du sondage recensement de Statistique Canada démontrent qu'il y a 2,5% de la population de Montréal que leur première langue, c'est l'arabe. Puis, il y a 3% de la population, donc 155 000 personnes, que leur, ils disent que leur religion, c'est l'islam. 155 000 musulmans ici, à Montréal. Vos voisins. Vos voisins. Vos Samaritains, c'est peut-être les musulmans. Ce matin, je n'arrive pas comme un expert pour vous dire comment rejoindre les musulmans. Mais je suis ici pour partager peut-être un peu d'expérience que j'ai eue en travaillant au Pakistan pendant 3 ans, puis au Kosovo, puis en Bosnie pendant 1 an et demi, à comment les connaître, puis à comment les aimer. L'affaire la plus importante à se souvenir, c'est que des musulmans, c'est des gens. Les musulmans, ce n'est pas une croyance, c'est des personnes. Et puis, les gens, on m'a souvent demandé c'est quoi un musulman typique au Pakistan. Je réponds tout le temps, je ne sais pas, j'en ai jamais rencontré un. Il y a beaucoup de différentes manifestations de saveurs de l'islam partout à travers le monde. Moi, j'aime lire, j'aime étudier, j'aime m'informer. Mais la meilleure façon de savoir qu'est-ce que ton voisin croit, c'est d'y demander. C'est d'aller le voir puis de lui demander. Entrer en relation avec lui. Regarde, qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu crois à propos de quelque chose? Puis, si tu entres en relation avec lui, tu n'auras probablement pas besoin de même poser la question. Mon expérience au Pakistan, c'est que moi, je ne suis pas évangéliste. Hein. J'ai de la misère à débuter une conversation. Une fois que la conversation est partie, par exemple, tu sais, je peux, puis j'aime ça, puis je me faisais arrêter sur la rue au Pakistan. « Hey, monsieur, qu'est-ce que tu fais ici, toi? » Évidemment, tu n'es pas pakistanais. Tu sais, qu'est-ce que tu viens faire ici? T'es-tu musulman? » Je dis « Non, je suis un chrétien. » Ah, il dit « C'est quoi, ça? » Puis, question après question après question. Plus qu'une fois, passé plusieurs minutes, une fois 2 heures sur le bord du chemin avec un avocat qui est intéressé à savoir c'était quoi être chrétien. Si vous rentrez en relation avec eux, vous allez avoir les occasions ouvertes à répondre à leurs questions, puis aussi apprendre à les connaître. Donc, comme j'ai mentionné, il y a beaucoup de différentes manifestations de l'islam. La plupart sont plus ou moins pratiquants, comme certains d'entre nous. La grande majorité des musulmans ne sont pas d'accord avec la violence qui se fait. On était au Pakistan. Pendant qu'on était là, pendant les 3 ans, il y avait des attentats, peut-être une fois par mois ou 2 mois, certainement. Puis il y en a eu une à 800 mètres de où est-ce qu'on était situé à l'hôpital. Puis, sans faute, les discussions après ces actes de violence-là, c'était « voyons donc, ça peut pas, c'est pas ça que Dieu veut. » Donc, ils en ont mort, eux aussi, de la violence. La majorité des musulmans que vous allez rencontrer ont les mêmes buts dans la vie que nous. Hein? Ils veulent une vie tranquille, ils veulent avoir du pain sur la table, une bonne éducation pour leurs enfants. Prenez le temps de les connaître. On en a peur. Deuxième chose. Ne parlez pas en mal de Mohammed ni le Coran. Si tu veux tuer une conversation, faites ça. On n'est pas là pour gagner un argument, pour voir qui a le Dieu le plus fort. Hein? C'est pas ça. On n'est pas là pour gagner un argument. Moi, j'ai déjà fait du porte-à-porte, puis je sais qu'ici, on en fait beaucoup, puis dépendant de la culture, ça fonctionne très bien. Tu sais, tu cognes à la porte, les gens sont ouverts, tu leur parles, tu peux leur présenter des arguments, puis ils vont dire, oui, ça, c'est raisonnable. Puis ils vont dire, oui, je veux recevoir le Seigneur Jésus. Si vous partez la conversation avec dans le but de gagner un argument, vous avez perdu votre ami. Vous avez perdu votre ami. Notre expérience au Pakistan, c'est que en moyenne, le temps que ça prend que la première fois que tu présentes l'Évangile à un musulman, jusqu'à ce qu'il se convertit, ça prend 7 ans. OK? Fait que, tu sais, si vous cognez à la porte, puis ils répondent pas tout de suite, là, ils disent pas oui tout de suite, mais c'est pas fini. Faut avoir une perspective plus longue lorsqu'on parle avec la majorité des musulmans. Troisième chose, votre présence est importante. Les relations sont importantes. Une fois, Denise et moi étaient dans un marché local près de Shikarpur, puis en tout cas, on était les seuls non-pakistanais là, ça, c'était évident. Puis à un moment donné, je passe à côté d'une petite boutique, puis il y a un monsieur qui m'appelle, il dit « Hey, where are you from? » Puis je me vire de bord en pensant de voir quelqu'un de Toronto, quelque chose. Puis c'était un monsieur pakistanais de la place qui venait de revenir de 5 ans à Calgary. Et puis, donc, on est rentré dans une conversation. Puis, fait que j'ai demandé, mais dis comment, tu sais, la majorité des Pakistanais veulent sortir du Pakistan, ils veulent se sauver, ils veulent avoir une meilleure vie. Il dit, pourquoi t'es revenu? Il dit, ben, j'haïssais ça. Il dit, je suis allé à Calgary, je restais dans une belle plage, j'avais une belle job, mais il n'y a personne qui me parlait. Il n'y a personne qui me parlait. Pas de relation. En tout cas, il n'y a personne qui lui a parlé pendant ce temps-là. Votre présence est importante. Si vous rentrez en relation avec quelqu'un du Moyen-Orient, de l'Islam, juste être présent, c'est important. Ici, quand quelqu'un meurt, on visite le salon funéraire, puis tu dis allô, tu donnes la main, puis tu te sauves. Là-bas, si tu as un membre de la famille passe et décède, tu peux y aller le jour même, tu peux y aller dans 6 mois, puis tout ce que tu as besoin de faire, c'est d'être là, puis d'offrir tes sympathies, puis c'est assez de juste s'asseoir, puis peut-être partager un plat avec eux, puis de rien dire. Fait que même si tu comprends pas la langue de l'autre personne, votre présence, seulement que votre présence est en train de débuter une relation familiale. Votre présence est importante. La raison que je vous partage ces choses-là, c'est que des fois, on a des attentes différentes. On a des attentes de c'est quoi l'évangélisation, de c'est quoi faire des relations. Mais si tu veux bâtir une relation, tu dois comprendre comment l'autre personne le voit, n'est-ce pas? Pour certaines cultures, ton espace vital est différent. Moi, je pense que je viens d'une culture plutôt anglaise. Je suis franco-ontarien, je ne suis pas québécois, ce n'est pas de ma faute. J'ai dit ça parce qu'il y a des Aaron ici. Monsieur Murray Aaron était notre pasteur, puis chaque fois qu'il arrivait, il disait, je viens de l'Ontario, mais c'est pas de ma faute. Mais je suis mal avec ça. Ah oui, l'espace vital. Donc, moi, je suis confortable si tu restes au bout de tes bras, pas qu'on se parle de même. Pour certaines cultures, l'espace vital est beaucoup plus petit. T'sais. Tu peux être nez à nez, puis c'est correct. Donc, une affaire que je me suis jamais habitué au Pakistan, c'est que si tu jases avec quelqu'un, puis tu marches à la rue, deux hommes, ils vont te tenir la main. « Hey, là, je t'inquiète! Mais dans certaines cultures, c'est une façon de démontrer que on est en contact, on est comme frères. Fait que c'est une étape importante. J'ai un de mes collègues, je travaillais dans un des hôpitaux, notre gestionnaire, elle était, moi j'aime mon espace, mais elle était encore plus. Puis il y avait un monsieur libanais qui travaillait avec nous, puis lui c'était comme... Quand il te parlait, il était collé nez à nez presque. Fait qu'elle s'est habituée à se promener avec un crayon dans ses poches de manteau. Puis quand il arrivait, elle se grattait le front comme ça. Pour l'éloigner un peu, tu sais. Fait que... faut s'habituer à l'autre personne. Les relations familiales sont super importantes. Il y a beaucoup de nos voisins musulmans qui arrivent ici, qui sont venus peut-être les premiers de leur famille, peut-être qu'ils vont être les seuls de leur famille pour s'installer. Puis, comme le monsieur de Calgary, là, que personne ne lui a parlé pendant 5 ans, ils se sentent seuls. Ils ont besoin d'être entourés. Ils manquent leur famille. On assiste à une église du fellowship. On est membre d'une église du fellowship à Guelph. Et on a un groupe, l'église est divisée c'était la traduction, missional community, communauté missionnelle. Dans notre coin de Guelph, il y a beaucoup de familles, il y a beaucoup de nouveaux Canadiens. Un des couples dans notre groupe demeure dans un bloc. Puis les voisins d'en face, c'est des gens qui viennent d'arriver de l'Afghanistan, ça fait peut-être 6 ou 8 mois. Ils ont 2 petits-enfants. Puis Cameron, ça c'est nos amis, Cameron puis Sonia, ont décidé, regarde, c'est nos voisins, on va se côtoyer, on va apprendre à les connaître. Fait que se sont invités... mutuellement. Puis là, à peu près 2 mois passés, ils étaient assis ensemble autour de la table. Puis le couple de l'Afghanistan ont partagé, regarde, on manque incroyablement notre famille. La dame a dit, je voudrais aller me trouver un job pour essayer d'aider aux finances de la famille, mais je ne suis pas capable de sortir. J'ai pas d'oncle, puis de tante, de grand-maman pour prendre soin des enfants. T'sais, on n'a pas notre famille. Puis Cameron, assis autour de la table, il disait, on est votre famille. On est votre famille. Immédiatement, le couple de l'Afghanistan se sont mis à pleurer. Juste le soulagement, la reconnaissance du fait que, wow, il y a des gens qui nous aiment, qui veulent prendre soin de nous. Dieu a amené des gens de partout le monde dans votre voisinage. Il y a des énormes besoins. On a vu tantôt que malgré nos efforts, tous nos efforts missionnaires, les missionnaires, les pasteurs, tous les professionnels qu'on a envoyés partout dans le monde, que c'est pas assez. Les besoins continuent à dépasser les ressources qu'on y met. On ne peut pas laisser cette tâche dans les mains des professionnels. On ne peut pas laisser cette tâche-là uniquement dans la main des pasteurs et des missionnaires. L'appel de faire des disciples qui font des disciples qui vont suivre le Seigneur Jésus-Christ C'est à tous. Allez-vous étendre votre temps pour leur donner de la place? Avez-vous suffisamment de place dans votre cœur pour les aimer au Seigneur Jésus-Christ? Y a-tu assez de place dans vos cœurs? Ça va prendre du temps. Ça va prendre de vos ressources. Ça va être dérangeant. Vous allez manger des choses dont vous n'êtes pas habitué. Mais je crois que c'est à ça que le Seigneur Jésus nous appelle. Surtout dans un contexte comme Montréal. Seigneur Jésus, c'est clair, Seigneur, par les Écritures, que tu nous appelles tous à cette tâche. Ce n'est pas laissé au prochain, au pasteur, aux anciens seulement, aux évangélistes. C'est tous, ça nous appartient tous. Seigneur Jésus, donne-nous de pouvoir de regarder avec tes yeux, de voir avec tes yeux, Seigneur, puis de voir qui on devrait inviter dans notre temps. Oui, Seigneur, donne-nous le courage d'être dérangé, de se laisser déranger pour toi, Seigneur, par amour pour les gens qui nous entourent. Oui, Seigneur Jésus, merci pour cette promesse que, rendu au ciel, Seigneur, il va y avoir des gens de toutes les nations, de toutes les tribus, de toutes les langues qui vont être nos voisins. Hey, Seigneur, apprends-nous à vivre avec eux pour ta gloire ici aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen.